Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Belinda Bosuma. Où sont passés les millions de dollars que le gouvernement a mis à la disposition de l'ONG Soko pour exécuter le programme de développement local des 145 territoires dans la Mongala? En tout cas, une question orale avec débat a été adressée hier par le député Vincent Andoulou dans ce sens au vice-premier ministre en charge du plan. Jean-Pierre Lacroix a rencontré hier les délégués de l'Union sacrée pour la nation ainsi que ceux de l'opposition politique au menu de leurs échanges, entre autres la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix poursuit ainsi son séjour à Kinshasa. Et puis, l'invité de ce matin, Maître Olivier Ndoole, avocat au barreau du Nord Kivu, il nous parle de la démarche qu'il a entreprise auprès de la présidence de la République pour obtenir la modification d'au moins 5 articles de la loi du 15 juin 2023. Madame, Messieurs, bonjour. Programme de développement local des 145 territoires. Où sont passés les millions de dollars mis à la disposition de l'ONG Soko par le gouvernement pour l'exécution de ce programme dans la province de la Mongala? C'est la question orale avec débat adressé hier par le député Vincent Andoulou au vice-premier ministre et ministre du plan Guylaine Nyembo. De retour des vacances parlementaires, l'élu de la Mongala affirme qu'aucun ouvrage n'a été construit dans sa province dans le cadre du PDL 145 territoires, alors que les fonds ont déjà été décaissés et le marché attribué à l'ONG Soko. Le député national Vincent Andoulou explique au micro de Michel Kifindangoy.
La question orale avec débat, je l'ai adressée au vice-premier ministre, ministre des plans, sur la gestion des fonds que le gouvernement a mis à la disposition de l'ONG Soko pour exécuter le PD 145 territoires. Il était prévu dans la province de la Mongala la construction des bâtiments administratifs, les routes des sites agricoles, les écoles, salles de santé et tant d'autres. En revenant des vacances parlementaires, nous avons plutôt constaté rien ne se fait sur terrain pendant 5 ans. C'est pourquoi les Mongalais voulaient savoir plus la destination des fonds des PDL 145 territoires. Au début, on a appris que les PDL 145 territoires dans la Mongala pouvaient être exécutés par PNUD. Quelques temps après, c'est Caritas, maintenant c'est Soko, et Soko c'est l'ONG de son excellence le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui est le fils de la Mongala.
Vincent Andoulou a aussi introduit une autre question écrite adressée au ministre des Infrastructures et Travaux Publics sur le non-asphaltage de la nationale numéro 6, aujourd'hui en délabrement très avancé, ce alors que le budget de chaque année depuis 5 ans programme toujours la réhabilitation de cette route, a-t-il dit. Dans l'actualité aussi, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix poursuit son séjour à Kinshasa où il est arrivé dimanche soir. Hier, Jean-Pierre Lacroix a eu un tête-à-tête avec les délégués de l'Union sacrée pour la nation. C'était une occasion pour cette plateforme politique du chef de l'État de soulever certaines questions relatives aux dégâts collatéraux de la guerre au pays. C'est notamment la catastrophe humanitaire dont fait face actuellement la RDC. En outre, ces délégués de la majorité au pouvoir ont attiré l'attention des Nations Unies sur l'intangibilité des frontières du pays qui n'est pas respectée par l'un des pays voisins. Hubert Tetika du regroupement AB, Philippe Ounji de la FDC et Jean Tezo de l'UDPS ont évoqué tour à tour ces questions. Suivez.
On parle de maintien de la paix, mais pendant qu'on recherche des solutions pour la paix, il nous faut renforcer la capacité à faire face à cette catastrophe humanitaire, aux dégâts collatéraux de la guerre. Nous avons aujourd'hui des acteurs humanitaires qui sont sur le terrain. Nous avions même mis en place un plan de réponse humanitaire. Mais néanmoins, quelle est la contribution de la MONUSCO dans ces plans de réponse humanitaire?
Maintenant, nous sommes violentés par le Rwanda. Et j'ai rappelé aussi au secrétaire général que les frontières que nous avons sont des frontières que la communauté internationale en 1985 ont été imposées à l'Afrique et particulièrement à la RDC. Donc, si la RDC doit être attaquée par le Rwanda, par exemple, la communauté internationale, c'est elle qui devrait réagir en premier lieu.
Nous avions dit face à la délégation de secrétaire général Lacroix que la RDC, le Rwanda, les pays de la région, s'ils travaillent dans la coopération, il est possible, chacun à la hauteur de ses interventions, de trouver les résultats et non faire la guerre. C'est ainsi que nous avons trouvé de l'opportunité pour dire au secrétaire général Lacroix que la MONUSCO devait s'investir davantage pour que la paix durable revienne la partie orientale de notre pays.
Après les délégués de l'Union sacrée pour la nation, Jean-Pierre Lacroix s'est entretenu aussi avec les délégués de l'opposition politique, Martin Fayoulou de la plateforme Lamouka, Emmanuel Chadari du FCC et Didier Moumengi, représentant le docteur Mukwege, était de la partie. Martin Fayoulou a soulevé la question de FDLR qui pèse sur le gouvernement congolais et compliquerait davantage les négociations en cours entre Kinshasa et Kigali. Par ailleurs, le président de l'ECID plaide pour le soutien des Nations Unies à son initiative de dialogue national pour la réconciliation des Congolais. Martin Fayoulou s'explique.
J'ai demandé à M. Lacroix que fait la communauté internationale, que fait les Nations Unies, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie les M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise, pour détruire les Congos. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui, on prend M. Tshisekedi en tenaille et on lui dit que non, il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies. Et je lui dis que les Nations Unies doivent régler le problème de FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les États-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui, ça devient un problème du Congo. Maintenant, en ce qui concerne ces processus de Luanda ou de tel ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. Ce processus de Kinshasa pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qu'ils comprennent, qu'ils se disent la vérité et qu'ils se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a.
En réponse, Jean-Pierre Lacroix affirme que les Nations Unies à travers la MONUSCO sont favorables à l'initiative de dialogue entre les Congolais face aux défis de l'Est. Il a par ailleurs plaidé pour la prise en compte par la classe politique du processus de Nairobi et de Luanda. C'est un dossier signé Askenzibia Tayoro. Par ailleurs, sachez que le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a inauguré hier une peinture murale symbolisant la lutte contre la désinformation. C'est en marge de la Journée internationale de la paix qui sera célébrée le 21 septembre. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie des Beaux-Arts en présence de la chef de la MONUSCO et de plusieurs autres personnalités. Détail dans ce reportage de Miradim Fouengi, Believe Fataki et Baleka Emanuela.
Prenant la parole à cette occasion, Jean-Pierre Lacroix a expliqué l'importance de l'œuvre d'art dans la communication. Pour lui, les artistes ont toujours su passer leur message à travers leurs œuvres.
La meilleure réponse à apporter à ce fléau, c'est de promouvoir de manière proactive, avec le concours de tous ceux qui peuvent le faire, à la fois un message de paix, le rôle des acteurs de paix et un message d'engagement de tous. Et dans ce contexte, le rôle des artistes est fondamental, il a toujours été. Il y a une longue tradition d'engagement des artistes pour promouvoir la culture de paix. C'est plus que jamais nécessaire en République démocratique du Congo.
Prisca Tonkwei, la conceptrice de cette œuvre, a remercié la MONUSCO pour cette initiative de communiquer à travers une œuvre.
Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative qui permet pour la première fois, on s'intéresse à l'art et on communique, on prend cet art comme étant moyen de passer l'information, communiquer, parce que je pense que dans ce pays, il faut ces genres d'activités qui permettent en sorte que l'on comprenne l'art d'une autre manière.
Notez que l'année 2024 marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la déclaration et du programme d'action sur une culture de paix dans le monde.
Entre-temps, au Nord Kivu, de nouveaux affrontements ont opposé hier dans la matinée les groupes armés locaux aux rebelles du M23 près du village Kaniro. Selon des sources locales, hier avant midi, des crépitements d'armes lourdes et légères ont été entendus dans la zone. Nos sources ne fournissent pas plus de détails sur ces combats. Pendant ce temps, la situation n'est fait que s'est dégradée pour les agriculteurs du groupement Binza dans le Rutshuru. L'accès aux champs devient de plus en plus difficile, alerte ces agriculteurs. Les quelques courageux qui ont tenté d'y accéder le lundi ont subi subi des exactions de la part des rebelles. Selon leur témoignage, l'un d'eux s'exprime sous anonymat.
La situation ne fait que se dégrader à Kisseguru et Katuiguru. Hier, quelques femmes ont forcé l'accès au champ. Une a été amputée de son bras, une autre amputée de ses deux oreilles et une autre encore poignardée au ventre. Mon voisin motard de son état, il transportait des colis dans les champs et portait disparu depuis hier matin alors qu'il était parti au champ. Cette situation a créé une psychose parmi les habitants dont certains ont commencé à fuir le milieu pour se rendre à Kiwanja et en Ouganda. C'est vraiment terrible ici. Le M23 interdit tout accès à toute personne au champ. Ils ont placé des limites. Une fois franchie cette limite, c'est la mort. C'est vraiment une situation inquiétante qui se vit ici. Nous vous demandons de prier pour les habitants de Kisseguru.
Du côté de l'Ituri, une trentaine d'écoles primaires et secondaires rencontrent des difficultés depuis la rentrée scolaire dans les territoires de Djougou et Mambasa. En cause, l'insécurité liée à l'activisme des groupes armés, notamment les EDF, qui obligent de nombreux enfants et enseignants à fuir leur village. Face à cette situation alarmante, des notables, activistes des droits de l'homme et membres de la société civile lancent un appel pressant au gouvernement pour établir la sécurité dans ces zones. Et puis, la résilience des femmes déplacées de Kigonze, c'est le titre de ce reportage que vous allez suivre. Depuis la semaine dernière, en effet, Radio Okapi vous propose une série de reportages de proximité sur la ville de Bunia. Ce matin, notre rédaction de Bunia nous parle des initiatives de ces femmes déplacées pour survivre et nourrir leurs enfants. Martial Papimukeba nous plonge dans le quotidien de ces femmes courageuses et résilientes. Voici son reportage.
Malgré les traumatismes subis, ces femmes font preuve d'une résilience extraordinaire. Parmi elles, beaucoup assument la fonction des chefs de famille et élèvent seules leurs enfants. Elles s'adonnent à des petits travaux pour assurer leur survie et celle de leur famille. L'une d'elles, Paulette Adio, témoigne.
Le plus souvent, c'est faire les champs. Les autres lavent les habits des gens de la cité. Cet argent aide à prendre en charge sa famille.
Malgré leur résilience, ces femmes demandent un retour de la paix dans leur milieu d'origine. Anizawa Di partage son témoignage.
On avait fui pendant la guerre. Nous ne savons pas où se trouvent nos enfants. Nous demandons au gouvernement la paix pour que nous puissions retourner dans nos villages.
Le parcours de ces femmes déplacées est un témoignage de la force des femmes dans des situations de crise. Signalons qu'à ces jours, les sites de Kigonze hébergent 1324 femmes et 9547 enfants déplacé. Bunia, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Ouverture hier à Kinshasa du 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Le congrès se déroule sous le thème « Renaissance, ensemble façonnant l'avenir de notre profession ». Les participants tentent de mettre en application les 80 recommandations issues des états généraux des médias tenus en mars 2022. Ce rendez-vous intervient après une crise généralisée entretenue au sein de l'UNPC depuis le dernier congrès tenu à Mwanda en 2020. Des détails avec Richard Junior Kamunga.
C'est le ministre de la Communication et Média, Patrick Muyaya, qui a ouvert les travaux de ce congrès devant 200 congressistes venus de 25 provinces et ceux de la ville, province de Kinshasa. Prenant la parole à cet effet, le président intérimaire de l'INPC, Modeste Chabani, a indiqué que ce congrès mettra en route la refondation de l'Union. Les amendements du statut et règlement d'ordre intérieur sont prévus. Où le ministre Patrick Muyaya, les journalistes étant les poumons de la démocratie et jouant aussi le rôle d'éclaireurs, doivent avoir les tests rigoureux pour les changements de l'écosystème médiatique. Les travaux en plénière ont débuté l'après-midi de ce mardi, alors que le vote du nouveau bureau du comité directeur interviendra avant le jour de la clôture.
Autre nouvelle, remise hier à Kinshasa de 400 bancs par le service national à deux écoles au camp militaire Tchatchi à Kinshasa. Il s'agit du complexe scolaire et du lycée Tchatchi. Ces bancs ont été fabriqués par les anciens délinquants d'Ikuluna, devenus bâtisseurs après leur formation au service national. Selon le commandant de cette structure, les autres camps militaires et policiers de Kinshasa seront également dotés en bancs cette semaine et la semaine prochaine. Le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik a aussi précisé que cette dotation répond aux instructions du président de la République qui a visité ces deux écoles lundi dernier. Ses propos ont été recueillis par Pele Kipela Mondo.
Les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la disposition de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. Et nous, nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. Aujourd'hui, c'est pour le camp Tchatch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp Colonel Kokolo soient équipées aussi en banc, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça servira cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera les autres écoles qui sont au camp CETA, au camp Bayading et les autres camps qui vont bénéficier de bancs fabriqués par le service national.
Actualité internationale. Nous sommes au Liban. Une série d'explosions des beepers a fait 9 morts et près de 2800 blessés, selon le dernier bilan du ministre de la Santé libanais. Le Hezbollah accuse Israël et assure que l'État hébreu recevra son juste châtiment. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu annonce que le retour des habitants du nord d'Israël ayant fui en raison des tirs transfrontaliers du Hezbollah figure désormais parmi les buts de guerre.
L'invité.
Il s'agit de Maître Olivier Ndoole, avocat au barreau du Nord Kivu. Il nous parle de la démarche qu'il a entamée auprès de la présidence de la RDC pour obtenir la modification d'au moins 5 articles de la loi du 15 juin portant sur la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Maître Ndoole est avec Bernard Nyangi.
Maître Olivier Ndoole, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous vous êtes adressé au président de la République dans une lettre ouverte où vous demandez son implication par rapport à la loi qui a été promulguée il n'y a pas longtemps. La loi portant protection et aussi responsabilité des défenseurs des droits humains. Qu'est-ce qui ne va pas par rapport à cette loi?
En fait, c'est une lettre. Moi, je l'adresse comme citoyen congolais qui a saisi la Cour constitutionnelle depuis plus d'une année et la Cour constitutionnelle ne s'est jamais prononcée par rapport à la requête liée à les constitutionnalités. Et comme vous le savez...
C'est vous qui avez introduit une requête.
Une requête en inconstitutionnalité par rapport à certaines dispositions, notamment les articles 2, 3, 7, 11 et aussi les articles 26, 27 et 28 de la loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Et c'était bien évidemment en période électorale, c'était de leur droit de suspendre en vertu du principe de l'électoral tient les constitutionnels en état. Mais depuis que les contentieux électoraux ont été vidés, force est de constater que jusque-là, malgré les caractères d'intérêt public, les caractères, si vous voulez, de protection et de sauvegarde des libertés, la Cour constitutionnelle refuse ou se donne, si vous voulez, le courage beaucoup plus de ne pas se prononcer par rapport à la requête qui la saisisse.
Et qu'est-ce que vous attendez du président de la République?
Comme vous le savez, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et lorsqu'on saisit une cour, et à l'occurrence une cour qui est censée se prononcer à premier et dernier ressort, le seul, si vous voulez, dimension en termes d'espoir que nous avons, c'est cette cour puisse se prononcer. Et du moment où cette cour fournit un effort pour ne pas nous rendre justice, il s'agit d'un déni de justice. Et du fait qu'il y a plus une autre juridiction sur laquelle on doit introduire le recours, nous avons écrit encore une fois, d'autres organisations ont écrit au premier président de cette grande institution. Jusque-là, il n'y a pas de réaction. Nous avons jugé utile donc de saisir le président de la République pour que quand même le contrôle de la constitutionnalité soit exercé, parce que là était constaté que nombreuses requêtes introduites devant la Cour constitutionnelle ont fourni un effort pour ne pas y répondre et de surcroît les gens restent dans une sorte de déni de justice et puis il n'y a pas un contrôle de constitutionnalité par rapport aux faits qui sont soumis devant cette instance.
Et c'est en début septembre en cours que vous avez adressé cette correspondance. Est-ce que vous rassurez que c'est déjà parvenu à la destination.
Exactement, comme vous allez constater, il y a l'accusé de réception de la présidence, l'accusé de réception de la Cour constitutionnelle, Conseil d'État, toutes les grandes institutions, même les ministères qui sont concernés, qui ont une incidence sur les droits et libertés publiques en République démocratique du Congo, ont été saisis, y compris la même Cour. Et nous estimons, bien que c'est une question juridictionnelle qui avait été introduite à travers la requête, c'est-à-dire en contentieux, nous estimons qu'à travers toutes ces réunions, cette question aussi a été abordée et nous estimons que la haute cour, c'est-à-dire la cour constitutionnelle, pourra rendre justice à notre requête pour que nous puissions, une fois être situés par rapport à la légalité et si vous voulez, l'inconstitutionnalité par rapport à ces articles qui sont contestés.
Ok, alors revenons un peu à ces articles qui sont contestés. À ces articles-là, pourquoi vous le contestez en fait?
Nous le contestons parce que d'abord, quand vous prenez l'article, par exemple, D711, pose des conditionnalités pour être appelé défenseur des droits de l'homme. Quand on met par exemple des conditions telles que un défenseur des droits de l'homme doit s'enregistrer, doit envoyer un rapport à la Commission nationale des droits de l'homme et au ministère de la Justice, cela crée en quelque sorte d'abord des conséquences, c'est-à-dire il y a défenseur des droits de l'homme au niveau rural, c'est-à-dire ceux qui travaillent à plus de 80% sur l'environnement, qui ne savent pas ni lire ni écrire, c'est-à-dire automatiquement déjà ils sont exclus et aussi ils se exposent à des poursuites judiciaires conformément maintenant aux articles 26, 27 et 28, pourtant dans une législation censée les protéger.
Maître Olivier Ndolé, merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.